Catulle Mendès, Don Juan au paradis. Quand il comparut, après les formalités très simplifiées pour lui de l'agonie et de la mort, devant le juge qui, choisissant le bon gré de l'ivraie, s'ouvre aux élus les portes paradisiaques et précipite les damnés à l'éternelle géhenne, Don Juan, selon qu'il est écrit dans le livre de Charles Baudelaire, ne daigna point se montrer ému, et même jeune toujours et si beau, ses lèvres gardaient le sourire dont pleurèrent les Elvire et les Anna. À l'aspect de cet adolescent, qui avait eu dès la terre l'immortalité de la grâce, les vierges du ciel rêvèrent d'un ciel qu'elles ne connaissaient pas, et soupirèrent charmées. Elles faisaient des vœux, en parlant bas entre elles, pour qu'aucune charge grave ne s'élevât contre l'accusé, pour qu'il fût admis dans l'impérissable joie salaire des innocents sous les repentirs. Elles auraient plaisir à se promener en sa compagnie dans ce sentier d'étoiles que nous appelons la Voie lactée, à faire de la musique avec lui les jours de concert près de trône. Mais elles durent bientôt renoncer à ses aimables espérances. Don Juan avait à peine répondu nonchalamment aux premières questions du juge, qu'une gémissante multitude de filles et de femmes se rua dans le suprême prétoire, déchevelées, robes défaites, des pleurs de rage aux yeux, des plaies saignantes au cœur. C'étaient les victimes de l'implacable amant. Toutes, il avait faim de les aimer. Toutes, il les avait trompées, torturées, oubliées. Il avait choisi les plus belles pour en faire les plus malheureuses. Les enfants rougissantes qui se trouvent derrière les jalousies au bruit d'un pas dans la rue, les épouses dont le sommeil menteur tourné vers la ruelle du lit écoutent avec un effroi délicieux monter jusqu'à elles à travers les ronflements de l'époux la sérénade de l'amant. Les nonnes réveillées dans la paix des cloîtres l'avaient suivi éperdument sans écouter la suite prochaine des malédictions, enjambant dans leur fuite des cadavres de père ou de mari, s'arrachant du cou des scapulaires pour en étrangler la sœur converse dont les cris auraient donné l'éveil. Son irrésistible convoitise n'avait épargné aucune belle vivante. Victorieusement, elle s'était haussée jusqu'au plus illustre, abaissée jusqu'au plus humble. Il avait volé les rênes aux alcôves des souverains, les paysannes aux grabats des rustres, et toutes, toutes, après de rapides baisers, en vain suppliant et tendant les bras, toutes il les avait repoussées d'un geste qui se moque et d'un rire qui méprise. Ô cruauté des longs abandons après de trop courtes délices, traînant leur honte et leur deuil, pleines à la fois du remords et du regret de la faute, elles l'avaient cherché si longtemps de ville en ville, de contrée en contrée, ayant pour guide les désespoirs qu'il délaissait derrière lui, comme on suit la trace d'un assassin aux gouttes de sang sur la route. Et maintenant, au pied de l'arbitre, infaillible, montrant innombrable la beauté trahie de leur chevelure d'or ou d'ébène, de leurs yeux d'azur ou de nuit, de leur bouche de rose, de leur sein de neige et leur cœur déchiré, elles demandaient justice dans leur furieuse douleur. Et c'était autour de Don Juan comme tout l'assaut contre un roc d'une mer courroucée et plaintive. Un murmure d'horreur à cause de tant de cruels abandons courut parmi le céleste auditoire, et les vierges effrayées joignaient au-dessus de leur front leurs ailes. Cependant, comme l'accusé, toujours souriant, dédaignait de répondre, un ange, avocat d'office, prit la parole pour le défendre. Il ne niait pas le crime de Don Juan. Les témoignages des victimes étaient irréfutables. Oui, sans doute, son client avait mis à mal les plus charmantes d'entre les filles de la terre et, séduites, les avait délaissées sans une parole de consolation, sans une larme d'adieu. On aurait pu l'excuser à cause du charme de la femme, de l'avoir trop désiré, mais rien ne pouvait l'insenter de tant d'ingratitude après tant de bonheur. Il semblait donc avoir mérité l'éternel châtiment. Néanmoins, l'admission des circonstances atténuantes n'était-elle pas possible? Savait-on si ce tortureur n'avait pas été torturé? Au dire des poètes du bas monde, il portait en lui un infini besoin idéal. Était-ce de sa faute si l'insuffisance du féminin terrestre, ne lui permettant jamais d'être pleinement satisfait, il avait dû chercher d'amour en amour, sans relâche et en vain, la réalité de son rêve? Combien de tristes expériences, et comme il avait souffert, sans doute. L'avocat ne voulait en aucune façon médire des honorables témoins, dont le chagrin si légitime était digne de tous les respects. Mais, si exquises que fussent les plaignantes, si passionnées que fut leur tendresse, avaient-elles de quoi combler les vœux d'une âme toujours affamée d'impossibles ivresses? Ainsi, celui qui avait fait tant de victimes était une victime, lui aussi, tout autant que les désespérés. Il avait connu les désespoirs, et sans doute, le tribunal usant de quelque indulgence. Mais l'angélique avocat n'eut pas le loisir d'achever. Les plaintes des mille et une trois abandonnées couvrirent sa voix dans un redoublement d'imprécations. En même temps, les murmures grossis de l'assemblée témoignaient que l'auteur de tant de maux ne devait espérer aucune miséricorde. Et dans l'œil du juge, comme l'éclair avant l'orage, on vit luire une menace qui condamne déjà. Don Juan était perdu. Mais alors, une vieille femme s'approcha. Sordide, haillonneuse, la peau de la joue et du cou lui pendant, comme d'autres haillons, des touffes de cheveux d'un gris sale, pareil à des îlots de laine sur le cuir d'un dromadaire, bouffant sous un foulard graisseux, la face exsangue plaquée çà et là de taches violettes, l'œil jaune, une larme visqueuse tremblant au poil de la narine, la langue qui sort sur la lèvre qui tombe. Elle était si vieille et si hideuse à voir, avec son titubement qui avait l'air de courir après une béquille, que tous les anges se détournèrent dans un cri de répulsion. Mais il émanait d'elle un sale arôme de hotte à chiffon, hotte où se mêlerait en loques avec d'autres ordures, des bas de pauvresse et des chemises de fille. Une puanteur de bouche mouillée où aurait pourri des fleurs, où aurait moisi des phares. Au milieu des belles désolées qui étaient semblables, demi-nues à des fleurs épanouies, elle fut comme une flaque de boue tombée parmi les roses. Et elle dit, la voix cassée d'une toux qui crache, quoique je fusse bientôt centenaire et horde comme me voilà, l'enragé démon des luxures ne cessait pas de m'aviver le sang ni de me brûler les voiles. Pour acheter de jeunes baisers à ma lèvre vieillissante, j'avais dû vendre mes meubles, mes toilettes, mes bijoux. À présent, comme les mendiantes, je hantais les carrefours, les rues étroites de la vieille ville, mangeant les choses que l'on trouve dans les tas avant le passage des chiffonniers, dormant sous des auvents ou dans les caves à ciel ouvert des maisons en construction. Mais la faim ne m'exténuait pas assez. Je me sentais glacé ni par le vent ni par la pluie. L'antique convoitise survivante était en moi comme un poêle toujours allumé. Et c'était ni des sous ni du pain que je mendiais aux passants nocturnes. Oh, pauvre vieille, secouée ainsi qu'une loque au vent par l'infernal désir. Mes mains, tout à coup, jaillissant d'un angle de porte, s'abattaient sur une épaule, la rappaient, la tenaient bien, hélas. Tous me fuyaient, me rabrouaient, me jetant des ricanements et des injures. À cause de ma face ignoble, de mes cheveux gris, de mes yeux jaunes, de goules séculaires entrevues dans les ténèbres. Personne ne voulait de moi, abject, ni les rôdeurs, ni les voleurs, ni les ivrognes, à qui tout baiser est bon. Accroupi derrière quelques bornes, les poings aux dents, je pleurais des larmes de rage, ou bien, debout, Je hurlais dans la nuit comme une bête folle. Oh, j'étais infâme, oui, mais pitoyable dans cette infamie, puisqu'enfin je n'avais pas allumé d'incendie qui me dévorait. Et en me pébrisant, misérable, je me jugeais digne d'être plainte. Or, un soir, que l'oreille tordue et les yeux écarquillés, je guettais le hasard vainement espéré, je vis venir sous les étoiles un adolescent plus charmant que tous les rêves des femmes. À quel point il était beau, vous le savez, vous qui m'écoutez, puisque ce passant, c'était le jeune homme qui est là, puisque c'était Don Juan. À sa vue, je voulus m'enfuir, redoutant la torture d'un irréalisable désir entre tous absurdes, qu'un goujat, quelque soir, sevré et affamé de caresses, comme je l'étais moi-même, me mit les bras autour du cou. Je pouvais peut-être le rêver sans folie, mais cet effet, mon cheveu d'or, digne du lit d'une reine, avec quel dégoût il me repousserait. Oui, je voulais m'enfuir. Mais lui, il s'approcha, me retenant d'un geste, et il me regarda longtemps, attendri, tandis que je le contemplais, sans parole, extasié, pareil à un damné qui voit le paradis. Que pensait-il? Que devinait-il? Il me sembla que des larmes voilaient ses yeux plus doux que des étoiles. Enfin, il me prit par la main. Lui, oui, si délicieusement adorable que toutes adoraient, moi, immonde, qui avais méprisé les ivrognes et les voleurs, et m'ayant entraîné dans plus d'ombre, tendre la bouche vers ma bouche, il m'entoura de ses bras avec toutes les chères paroles, longtemps, longtemps, comme un époux enlace sa jeune épouse. La menace s'était éteinte dans l'œil du juge, et les 1003 amoureuses baissaient leurs têtes plaintives, n'osant plus accuser l'impitoyable qui avait eu pitié. Comme Don Juan fut absous, les vierges du ciel purent se promener en sa compagnie dans ce sentier d'étoiles que nous appelons la Voie lactée et faire de la musique avec lui les jours de concert près du trône.